Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, si vous de mon amour, avec aujourd'hui à la technique Michel Thomas et Benjamin Dagatinet, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza. C'est Xavier Pessugia qui réalise cette émission. Avec une humeur dédiée à ceux qui rêvent de grands espaces, une notion d'ailleurs toute relative, puisque nos ancêtres les poissons, lorsqu'ils ont quitté la mer pour conquérir la terre ferme, ont fait l'impasse sur les trois quarts des territoires de notre planète bleue, la bien nommée. Alors pour les océans, nous commençons la visite dans 3 minutes en compagnie de Jacques Perrin. En attendant, pour les habitants du plancher des vaches, c'en est fini de la terra incognita. Bah oui, tout est quadrillé, balisé, GPIsé. Et on comprend maintenant l'angoisse des chevaliers de l'ordre auto-moto-mobile, la plus noble conquête de l'homme, qui, faute de sillonner librement les étendues sauvages de l'Ouest américain, finissent coincés dans un bouchon ou bien derrière un camping-car sur une route de campagne. Je sais, c'est ridicule. Avec parmi ces héros de l'ère du pétrole pas cher, une espèce particulièrement menacée, celle des conducteurs de grands chemins. D'après les comptages récents des scientifiques, il en resterait à peine 400 dans les Alpes, donc la descendance n'est pas assurée. Il est temps de réagir. Et une poignée d'élus et le préfet des Hautes-Alpes se sont mobilisés pour sauver les derniers grands randonneurs à moteur. Oui, aussitôt dit, aussitôt fait, puisque, sauf recours de dernière minute, on inaugure mardi prochain, à l'occasion de la Croisière Blanche, la première grande réserve naturelle d'engins motorisés. 250 km d'itinéraire enneigé dans les vallées du Champsaur et du Valgaud-de-Mar, où nos amis les bêtes, 230 véhicules à 4 roues, pourront batifoler en toute liberté. Après les frustrations de l'an passé, où la croisière blanche avait été interdite, eh bien cette année, comptez sur les randonneurs à moteur pour faire fumer la neige. Et là, on est en pleine schizophrénie des élus locaux, qui vantent la seule chose que possède les Hautes-Alpes et qui lui rapporte 80% de sa richesse, c'est-à-dire la beauté des lieux. On vous en parle très régulièrement avec Christian Couloumi, et aussi le tourisme. Le Valgaud-de-Mar, ses routes de montagne offertes aux 4x4 de la croisière blanche, massacré après son passage. Le Champsaur, son rallye en zone naturelle sensible, à 2 pas du parc naturel du parc national des Écrins, pays des marmottes, du lagopède qui hiberne dans le silence des pots d'échappement. Mais oui, venez chez nous, ici on aime les animaux, les chevaux surtout, oui, surtout quand il y en a 150 sous le capot. Alors l'association montaigne Wilderness a collé un référé au tribunal de grande instance de Gap et la meilleure issue serait l'annulation de cette verrue pétaradante dans ce département, faut le dire, innovant qui fête sûrement ainsi à sa manière l'année de la biodiversité hivernale. Alors quant à vous autres, amis du tétralyre, du chamois, de l'air pur et du silence, du vrai, plutôt que la chevauchée des Valkyries motorisées, eh bien rassurez-vous, la rubrique actualité de nos montagnes, c'était aussi cette semaine la grande odyssée des Alpes du Nord. 1000 km sans une goutte d'essence, parce que les chiens de traîneau, ça carbure à la croquette et à l'estime de soi. Celle que le chien de tête perçoit dans la voix ou le regard du musher, donc le conducteur du traîneau. Ne cherchez pas la pédale d'accélérateur ni la poignée des gaz, une meute de chiens nordiques, on est tenté de dire que ça se pilote, vous savez, à la relation humaine. L'homme est aux petits soins, les chiens sont attentifs, ils bivouaqueront ce soir du côté du col du Mont-Cenis en Haute-Maurienne, donc chacun sera dans son rôle. Et pourtant, depuis les milliers d'années que nous parcourons ensemble les grands espaces de cette petite planète, qui saurait dire lequel du chien ou de l'homme est la plus noble conquête de l'autre ? Alors après la montagne, la fête des mers avant l'heure, la fête des océans, Jacques Perrin, je vous salue. 10 ans après le tour du monde en oiseau avec le peuple migrateur, c'est le tour du monde en poisson. Et là, vous nous invitez à nager avec les thons, à voler avec les raies des Galapagos, à danser avec les pieuvres, à piquer des sardines avec les fous du Cap. Et dans les premières et dernières scènes donc de ce film Océan, on vous voit avec Lancelot. Alors Lancelot, c'est votre fils hein, que vous tenez par la main, en train d'arpenter la galerie d'un muséum où trônent des espèces disparues. Et peut-être que la question centrale qui est sous-jacente à Océan, c'est quelle terre, quelle mer laisserons-nous à nos enfants ?
Bonjour. Oui, on a pris la gare maritime de Cherbourg qu'on a transformée en muséum d'histoire naturelle et surtout muséum des espèces disparues. Et on a choisi grande, on l'a décoré, parce que ce n'est pas un muséum d'histoire naturelle, on l'a décoré pour que cette vaste galerie, 120 mètres de long, 20 mètres de large, 15 mètres de hauteur, devienne impressionnante. Oui. Et pour que les gens se rendent compte, oui, voilà, c'est à ça, cette énormité-là, cette grandeur-là, ce mausolée immense, c'est ça. Et si on continue, même une gare maritime de 120 mètres ne sera pas suffisante pour exposer toutes les dépouilles des animaux défunts. Donc c'est terrible. Donc il fallait que ce soit impressionnant. Et le regard d'un enfant qui est au début du film ne parle pas, mais il y a l'adulte qui est... Non, l'adulte qu'on ne voit même pas. Il y a un commentaire qui dit, un jour, un enfant m'a posé une question, qu'est-ce que c'est que la mer? Qu'est-ce que c'est l'océan? Je n'ai pas su quoi répondre. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'encyclopédie, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de science naturelle qui peut raconter ce que c'est que la mer. Oui. La mer, François Sarano pourra en parler, mais il faut en parler pendant des heures pour définir un tout petit peu quelque chose. Donc ce sont des couleurs, ce sont des mouvements, et c'est une intense émotion. Et donc il n'y a pas de texte possible, mais il y a à montrer. Et à montrer, et à recevoir, à ressentir. Et dans la galerie des espèces disparues, l'enfant qui regarde naïvement se rend compte que c'est un drame. Et c'est là... S'il y a un message du film, il doit être induit. Et on doit le comprendre par les sentiments. Et cet enfant qui passe dans cette galerie qui presque n'en finit pas, voilà ce que nous avons fait et voilà ce que nous pouvons arrêter.
Alors Jacques Perrin, on va rejoindre Jean-Marie Pelt dans quelques instants. Ce sera juste après Pink Martini, notre premier disque.
On weekend she's your honey, then comes Monday, and that'll be sir to you.
Biddy Boppy Betty, better known as Billy, he's the up-and-coming local DA. A fearless crime fighter, political insider, sure to be mayor one day. But after work on Fridays, off comes his necktie, and on come her diamonds and pearls. You better get ready, cause now Billy's Betty, everybody's favorite girl.
The underbelly of the city, that's where you'll find Betty, Friday to Sunday night. Is she working undercover,
or just a fun lover?
Either way, that's all right.
Biddy Boppy Betty, what a bouncy beauty, so sophisticated and refined. She's a boy who doesn't show it, and though the guys all know it, none of them seems to mind. When Betty starts a bopping, the joint starts a hopping, she can twist and bend the whole night through. You really can't ignore her, and if you don't adore her, there might be something wrong with you. To Billy, working hard on behalf of our town, upholding law and order, talking to reporters, and keeping us safe and sound. If there's a moral to this ditty, it's not to judge Betty, Billy, or anyone, 'cause life's a lot richer with a healthy mixture, not to mention lots more fun.
Biddy boppy Betty, biddy boppy Betty, biddy boppy Betty, boo boo. On weekend she's your honey, then comes Monday, and that'll be sir to you.
Oh, bon, on va enfiler nos maillots de bain. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va parler des dons de la mer, dans les dons précieux de la nature. Ben, vous avez tout un chapitre extrêmement fourni sur la mer. Et j'ai presque dire au départ, donc, la mer, comment ça fonctionne. Donc ça nous renvoie à notre propre naissance, mais bien, bien avant.
La mer, c'est d'abord là que la vie a commencé, il y a peut-être un peu plus que 3,5 milliards d'années. Et puis, ces bactéries, puisque c'était des bactéries, l'évolution a traîné. Et pendant 2 milliards et demi d'années, ben, il ne s'est pas passé grand-chose de nouveau. Les bactéries auraient pu dire « rien de nouveau sous le soleil ». Enfin, c'est l'idée que l'on se fait, en tout cas, de cette vie bactérienne. Encore qu'il y a eu une invention colossale, c'est l'invention de la chlorophylle, par les bactéries dites algues bleues, qui en fait ne sont pas des algues, parce que ce sont des êtres vivants qui n'ont pas de noyau dans leurs cellules. C'est très différent des êtres vivants supérieurs, comme nous ou les plantes, qui avons des cellules à noyau. Les bactéries n'ont pas de noyau.
Donc les algues bleues sont chlorophylliennes.
Et les algues bleues sont chlorophylliennes, et c'est cette invention de la chlorophylle qui a permis de mettre en route le mécanisme de la photosynthèse, où du gaz carbonique a été capté dans l'eau et dans l'air, et a permis à la matière végétale de se fabriquer. Et tout ça, ça s'est fabriqué dans la mer. Et puis, il y a en gros 1 milliard d'années, tout d'un coup, ça bouge. L'évolution produit des animaux, des algues, invente la fameuse cellule à noyau, pour le coup, dont nous sommes tous partie prenante. On voit alors la nature faire d'innombrables prototypes.
Ces océans sont d'immenses laboratoires, ils tentent des tas de choses et donc on ressort des prototypes.
Oui, des quantités énormes de prototypes. On a vraiment l'impression que la vie, elle se cherche, comme si elle cherchait une formule unique, ce qui n'est absolument pas le cas, parce qu'au contraire, elle multiplie les prototypes. Mais tous les prototypes qui sont inventés dans l'océan, que ce soit des algues ou que ce soit des animaux, ne vont pas atteindre la Terre lorsque la vie sort des océans pour conquérir la Terre il y a 430 millions d'années. Alors, la grande majorité des prototypes restent à l'eau. Ils sont à l'eau, si on peut dire. Et ce sont simplement des prototypes minoritaires en nombre qui arrivent à émerger. C'est très net pour les algues. Il y a des algues rouges, il y a des algues brunes, et il y a des algues vertes, elles sont différentes par leurs pigments. Oui. Toutes ont de la chlorophylle, mais les rouges et les brunes ont d'autres pigments en plus. Eh bien, ni les rouges ni les brunes ne sont jamais sorties de la mer.
Mais parce que les vertes sont sorties avant aussi.
Oui, parce que les vertes sont sorties les premières, qu'elles ont donné toutes les plantes que nous connaissons, et que peut-être, au fond, il n'y avait plus de place pour que les rouges en fassent autant.
Donc le monde végétal terrestre est entièrement issu des algues vertes.
Absolument. Quand on voit des algues vertes sur une plage ou sur des rochers, on voit vraiment l'ancêtre de toutes les plantes. Comme les prototypes qui sont sortis sont minoritaires par rapport à la totalité des prototypes, ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que dans la mer, la biodiversité est beaucoup plus biodiverse que sur la Terre, c'est-à-dire que les êtres vivants de la mer sont plus différents les uns des autres, les espèces sont plus marquées, différentes les unes des autres, que les plantes terrestres. Mais les plantes terrestres, par contre, en nombre différent, sont toutes bâties sur le même modèle. Il y a un modèle de type, par exemple les plantes à fleurs, sont toutes construites sur la même architecture. Donc la biodiversité terrestre est moins grande que la biodiversité marine en ce qui concerne les qualités des produits vivants. Alors ça a une conséquence très importante pour nous dans ces réflexions sur la biodiversité, c'est que dans la mer, elles ont inventé aussi toutes sortes de chimies, oui. Des molécules pour se défendre contre des attaquants, des molécules pour attaquer, et il y a une chimiodiversité extraordinaire dans la mer. On a déjà isolé près de 10 000 molécules spécifiques des plantes et des animaux marins. Et ça représente une pharmacopée potentielle énorme. Et effectivement, actuellement, on trouve des molécules qui ont des propriétés anticancéreuses ou par exemple antivirales ou anti-infectieuses à partir des animaux et des plantes et des algues marines, et aussi des éponges, qui sont des animaux très, très, très simples et qui ont très, très peu évolué. Donc, de ce point de vue, l'océan est un réservoir. Alors, on a tendance à dire l'océan, c'est les poissons. Comme on dit, la forêt, c'est les arbres. En fait, c'est les poissons, mais c'est aussi tout le reste. Et on peut, sans prendre de risque, penser que, pour l'avenir, beaucoup de médicaments viendront effectivement des êtres marins.
Mais les deux manières de fonctionner de la mer, c'est la photosynthèse et la chimiosynthèse.
Tout à fait. Alors, en surface, il y a de la lumière qui pénètre dans l'eau et les algues font de la photosynthèse exactement comme les plantes vertes qui sont leurs descendants terrestres.
Mais là où il n'y a pas de lumière.
Ah ben voilà. Alors, quand il n'y a pas de lumière, la photosynthèse est impossible puisque l'énergie solaire ne peut pas être captée puisqu'il n'y en a plus.
Et donc, on sait que 100 mètres à peu près en moyenne en gros, sous les océans, il n'y a plus de lumière.
On le voyait très bien dans le Grand Bleu, d'ailleurs, la manière dont la lumière diminuait au fur et à mesure qu'il descendait. Et quand on est alors dans les abysses, il n'y a évidemment pas de lumière du tout. Mais contrairement à ce qu'on a cru très longtemps, il y a beaucoup d'êtres vivants dans les abysses. Et chaque fois qu'on fait une expédition, on découvre des quantités d'espèces tout à fait originales, tout à fait inconnues. Je pense au calamar géant, qui est un petit peu une sorte de mythe de la biologie marine, qui est un animal de très grande taille. Ces animaux et ces êtres des profondeurs, ils sont actionnés par une énergie qui vient de la chimie. Ce sont des réactions chimiques qui produisent de l'énergie. On sait très bien que des réactions chimiques produisent de l'énergie. Quand on met l'hydrogène et l'oxygène ensemble, ça fait boum, ça donne de l'eau. Mais le boum, c'est de l'énergie qui s'échappe. C'est tout à fait le même système. On a donc de l'énergie qui vient de molécules chimiques. Et on a une vie qui est tout à fait différente de la vie qui est contrôlée par le soleil. Au point qu'aujourd'hui, on se pose des questions sur les origines de la vie. Et si la vie avait plusieurs origines, si elle avait une origine solaire, comme on l'a toujours pensé, mais si elle avait aussi une autre vie comme origine, le fond des océans, où il y a d'ailleurs de la chaleur qui est dispensée, là où les plaques tectoniques se rejoignent, il y a du magma qui sort.
C'est là qu'on a trouvé les fameuses sources hydrothermales, ça c'était en 77.
C'est tout à fait ça, c'est tout à fait récent. Et c'est aussi une source d'énergie qui est spécifique aux abysses. Mais là, nous sommes dans un domaine qui est très nouveau, en fait. De tout ce que je viens de dire, on ne m'a pas dit un mot pendant mes études. Jamais. Tout ça a été complètement inconnu et naturellement, on nous enseignait qu'au fond de la mer, il n'y avait rien.
Alors que ce
sont
des
fond de la mer, c'était un désert.
Milieu extrême, et c'est aussi un formidable vivier parce que quand des gens sont allés chercher des échantillons, ça c'était il n'y a pas tellement longtemps, ils sont allés entre 2000 et 2500 mètres de profondeur, on était donc aux États-Unis, ils ont ratissé une surface, vous le racontez dans votre livre, d'à peine 40 mètres carrés.
Un grand salon.
Voilà, c'est un grand salon.
Oui.
Et là, Jean-Marie, qu'est-ce qu'ils ont récupéré ?
Eh ben, ils ont récupéré 1597 espèces, dont 58% étaient des espèces qui étaient encore inconnues, ce qui est extraordinaire, parce que c'est une petite surface qui a montré qu'il y avait une diversité biologique au fond de la mer à 2000 mètres, énorme. Et quand on dit 40 mètres carrés, il faut se rappeler que les fonds marins, c'est quelque chose comme 300 millions de kilomètres carrés. Donc ça donne une idée de l'énormité de la biodiversité marine, dont on n'avait pas idée jusqu'à tout récemment.
Et puis dans des animaux plus gros, en 1991, on a découvert une nouvelle baleine.
Oui, alors ça c'est très étonnant. On a trouvé aussi un nouveau requin très récemment, qu'on découvre encore de très gros animaux, qui plus est des animaux de surface, montre combien cette biodiversité marine est encore mal connue. Parce qu'on aurait pu imaginer que les très gros poissons et les très gros cétacés, ben on les connaissait. Depuis le temps, enfin, qu'on les pêche, ça fait quand même un bon bout de temps, on aurait pu dire on les connaît tous. Ben non, on en découvre encore. On découvre encore des espèces de singes. D'ailleurs, on a découvert l'année dernière une espèce de singe à Bornéo, alors qu'on aurait pu penser que les singes étant si proches de nous, puisque nous les singeons, comme nous disons, eh bien, on les connaît tous. Ben non, on ne les connaît pas tous encore. Alors, que dire des toutes petites espèces comme les bactéries qu'on ne connaît pas du tout?
Merci Jean-Marie Pelz. Soit vous allez manger votre poisson congelé, bien sûr.
Non, mais non. Je mange beaucoup de poissons parce qu'on mange trop de viande rouge qui est grasse et il faut manger aussi des poissons, j'allais presque dire des poissons rouges, des poissons à chair rouge,
c'est
sardines par exemple. Ça contient des omégas, c'est excellent, très à la mode, il faut manger des omégas.
Alors, il y a un homme qui vous écoutait avec pas mal d'attention. C'est dommage que vous n'allez pas pouvoir le croiser aujourd'hui, mais vous le connaissez. C'est Jacques Perrin, donc, qui déjà nous attend, donc avec ce film « Ode aux océans ».
Oui, Jacques Perrin, que je connais bien, que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup, j'admire beaucoup, a fait quand même des films remarquables. « Microcosmos »,« Le peuple migrateur », c'est des films merveilleux. Ouais. Alors maintenant, il va nous plonger dans les mystères des océans. Je sais qu'il a utilisé des moyens techniques très importants et je me réjouis beaucoup d'aller voir ce film au plus vite.
Jean-Marie, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
What's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad, getting worse. So, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. They got this and that with a rattle attack test and one, two, man, what you gonna do? Bad news, missed news, got too much to lose. Give me some truth, now whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw.
L'enfant qui découvrait la mer m'a demandé « L'océan, c'est quoi l'océan ?» J'ai consacré ma vie à l'étude des océans et je ne savais pas comment répondre. C'est quoi la mer ? C'est quoi l'océan ? Comment raconter ?
Et ainsi débute Océan donc de Jacques Perrin et de Jacques Clouzot, avec aussi François Sarano qui est avec nous, docteur en océanologie et puis aussi plongeur professionnel. Jacques Perrin, quand on regarde un peu ce qui s'est passé à Copenhague, Michel Serres disait que le grand absent de Copenhague, ça a été la Terre et ça a été la vie. Et je sens que vous avez voulu éviter les colonnes de chiffres et vraiment placer la vie au centre du film.
Ben oui, je crois que tout ce qui est analyse scientifique a été fait, a été publié, a été raconté, a été prononcé. Et puis, depuis quelque temps, hein, il y a des porteurs de leaders d'opinion qui sont admirables. Mais malgré tout, j'avais toujours le sentiment, puis après il a été partagé avec tous mes camarades avec lesquels on a fait le film, toujours le sentiment de « mais de qui, de quoi parle-t-on ?» Et donc l'envie d'appeler, voilà, mais où sont ces acteurs, où sont ces personnages ? pas dit des animaux, on est vraiment des personnages. Où sont ces poissons? C'est difficile d'avoir quelque impression de noblesse en parlant poissons. Quand on parle animaux, déjà, c'est un peu plus défini. Mais où sont-ils? Donc c'est là peut-être une des raisons de la nécessité de ce film. Ça s'est imposé. Y a des discours qui sont tous plus forts, plus pertinents, plus fouillés que les uns que les autres. Mais à un certain moment, si d'un seul coup, dans cette fresque sauvage qu'on a essayé de restituer, et que, en plus, on n'enferme pas l'impression qu'il nous donne dans un discours univoque. Oui. Hein, c'est pas, on ne parle pas de la nature. La nature, ça devient un théâtre. Un théâtre japonais, où il y a des mimes, où il y a des expressions. Il y a des expressions qui se font. Et dessus, chacun se fait une opinion sur l'étrangeté, le caractère énigmatique, le caractère mystérieux, fascinant. Et ce qui est important dans ce type de démarche, c'est que il y a une émotion qui est proposée. Ces personnages nous proposent une émotion. Sur 100 spectateurs, je suis persuadé que si on leur demandait « Allez, quelle est la chronique que l'on a installée dans le film ?» Chacun le raconterait différemment. Parce qu'on va fouiller, on propose des sujets vivants qui sont attachants, mais chacun le ressent en fonction de sa propre sensibilité. Donc il y a 10, 20, il y a autant de spectateurs que de façons de regarder le film.
Et le point commun, c'est que vous faites aussi appel, je dirais, à notre humanisme, même si parfois il est un petit peu enfoui, un peu à l'image de Jean-Marie Pelt, hein, d'ailleurs, qui vous a salvé aussi. Donc.
Qui est admirable. Oui, mais je trouve que dans Jean-Marie Pelt, c'est beau parce que les histoires, les plus belles histoires, ce que l'on dit souvent, on peut les rencontrer dans la nature. Et Jean-Marie Pelt a le talent formidable de nous raconter des histoires, des contes naturels. Et ça, c'est formidable.
Alors là, nous faisons l'inverse du film, c'est-à-dire que vous avez très peu de commentaires et beaucoup d'images. Ben, nous, on est à la radio. Et un homme qui vous a vraiment suivi, c'est François Sarano, je le disais, docteur en océanographie, plongeur professionnel. Vous avez travaillé pendant 13 ans sur la Calypso avec Cousteau. Vous avez créé Longitude 181 Nature, donc qui milite pour la protection des mers. Quels sont aujourd'hui, François Sarano, les bonnes idées qu'il faut avoir sur l'océan?
L'océan, c'est le dernier territoire sauvage de notre planète. Le dernier grand territoire où on peut voir, approcher des animaux sauvages sans qu'ils fuient. Le dernier endroit, notre dernier trésor, où on peut rencontrer les géants de la planète. Partout sur les continents, on a fait le deuil de cette nature sauvage. Il n'y a plus de géants. On voit les éléphants dans quelques parcs, derrière les vitres d'un 4x4. Il n'y a plus de grands prédateurs. Sous l'eau, il y a encore ces grands prédateurs. Il y a encore ces géants, et on peut les approcher, sans barrière, sans artifice. Et ça, c'est extraordinaire. Tout d'un coup, on est replongé, comme à l'aube du monde, dans des relations simples avec le vivant, des relations qu'on a complètement oubliées aujourd'hui, où on nous montre un monde de plus en plus virtuel. Et ça change tout, parce que c'est bouleversant, parce que ça vous donne envie d'aimer le monde, et ça vous donne envie de le partager avec les autres. C'est ça qui est fort, c'est pas simplement que ça enrichit soi, c'est que ça enrichit, parce que ça, on a envie de le partager, on a envie de l'offrir aux autres. Et ça change votre relation avec les autres, votre regard aux autres. Et ça, c'est le plus important. Et je crois qu'il serait formidable que chacun dans les classes, les élèves, puisse un jour se plonger dans cette nature sauvage. Voilà la première richesse de l'océan.
C'est un théâtre de la vie splendide. Et donc, dans cette vitrine qui correspond, je crois, à 250 et 1000 espèces recensées, on n'en a tourné que 200 à peu près, il n'y en a que 80 qui restent dans le film. Mais quelle expression, quelle danse, quel ballet, quel opéra sauvage. Et donc, c'est tellement confondant. Moi, j'ai l'impression, quand on découvre les choses, la vie naturelle, mais que l'on méconnaît, là, les particularités de ces animaux, la façon dont ils se comportent, les différences, les attachements, les relations qu'ils ont dans un écosystème, les relations et interdépendances les unes aux autres, quand on s'en approche et on est simplement les observateurs discrets, on est fasciné. Et ce qui est très bizarre, ce que j'aime bien, c'est que dans le même temps, comme on ne le connaît pas très bien, on trouve un sens qui est à chacun de l'expliquer, mais un sens à la vie. Et d'une certaine façon, comme c'est un monde complètement différent d'une autre, il nous renvoie à notre image et il nous permet de mieux regarder. En regardant les océans, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai envie de regarder la forêt, celle qui est proche, la fontaine de l'eau, Rambouillet, j'ai envie d'aller les voir. Parce que la planète, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est riche, mais elle est riche de diversité. Et donc quand on méconnaît quelque chose et qu'on s'en approche et que finalement on le découvre véritablement, ça ouvre notre âme. Mais je pense toujours qu'un petit peu, voilà, notre âme, c'est comme une âme, une mer intérieure. Et donc, de temps en temps, on va sur le grand large, la mer, et on découvre, grâce à cette faculté comme ça d'émotion, on découvre le grand large.
Alors François Sarano, on sait qu'il y a des animaux entre guillemets qui sont plus faciles à aborder, tel le dauphin, tel la baleine, et puis il y a aussi le requin. Et vous êtes un sacré défenseur du requin depuis très longtemps, qui évidemment est au sommet de cette pyramide et de cette chaîne alimentaire. Je tiens à préciser que début février, vous aurez d'ailleurs une exposition très intéressante qui aura lieu à l'aquarium de la Porte Dorée, donc qui s'appelle Dans le sillage des requins.
Et qui est fait en collaboration avec Océan, avec les images du film Océan et avec les photos d'Océan.
Et donc la boucle est bouclée, c'est parfait. Notre requin, pour le défendre, qu'est-ce qu'il faut dire encore?
Alors, on va dire le moins important. Il est fragile et après, qui nous apporte beaucoup. Il est fragile. C'est l'espèce, ce sont les espèces qui sont les plus menacées aujourd'hui. Parce qu'ils vivent longtemps. Ils ont donc une maturité sexuelle tardive et une faible fécondité. Un petit peu comme les baleines. Et ils ne peuvent ainsi pas supporter une pression de pêche importante. Or, la pression de pêche explose partout dans le monde, à la fois parce que certains vont le pêcher délibérément pour couper ses ailerons et faire des potages d'ailerons, à la fois parce qu'ils se prennent aux longues lignes qui sont destinées au thon. 90% des grands individus adultes ont disparu au cours des 50 dernières années. Cela met en danger véritablement toutes les populations de requins du large. Toutes. On risque de les voir disparaître. Quand une espèce disparaît, ce n'est pas simplement un élément qui disparaît, c'est toutes les relations qu'elle tisse avec les autres espèces et le milieu. Quand elle disparaît, si ces relations disparaissent, c'est la toile du vivant sur laquelle nous sommes installés qui se déchire et nous allons basculer avec elle si nous les laissons partir. Et pourquoi c'est merveilleux? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument le préserver? Parce que lorsqu'on nage avec un animal comme le grand requin blanc, sur lequel on a dit beaucoup de bêtises et qui sont toutes fausses, on est bouleversé. C'est un animal qui est fascinant et qui surtout est franc. Comment dire? Il n'y a pas de calcul. La relation est directe. Elle vous change, encore une fois. C'est ce que je disais. Ça vous donne envie d'avoir des relations vraies, saines,
directes. On vous voit d'ailleurs face à un requin blanc. Ça se passe pas mal. Hein,
donc... C'est pas simplement face. C'est facile d'être face au requin.
Oui.
Mais de nager épaule contre nageoire avec lui, œil dans œil, tout d'un coup, c'est différent. Et c'est à ça que nous sommes arrivés avec le caméraman David Reckert, de faire ce plan qui m'étonne encore moi-même tellement je le trouve réjouissant. Parce qu'il exprime toute la joie, la beauté, la sérénité et la paix avec laquelle on ressort d'une telle plongée. Et encore une fois, elle serait rien si on n'avait pas envie de la partager après. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà ce en quoi la nature sauvage est indispensable. Et autre chose que je tirais de cette plongée avec le grand requin blanc, c'est qu'il ne faut pas écouter les idées reçues. Il faut aller à la rencontre. Et ce qui est valable pour le grand requin blanc, c'est valable pour tous les autres. Tous ceux qui ont des cultures, des traditions différentes des nôtres, sur lesquelles on dit des tas de bêtises sans jamais aller les rencontrer. Et le jour où on est avec eux, et qu'on écoute leurs histoires, alors on s'aperçoit d'abord que leurs histoires sont merveilleuses, et que comme nous, ils aiment la planète, ils aiment le monde, et qu'on ferait mieux de vivre ensemble.
Donc, ne regardez pas les dents de la mer, mais écoutez tout de suite Cousteau, c'est en 1974.
L'humanité cherche à exploiter la mer sans la connaître, c'est-à-dire à pêcher n'importe comment. La pêche, c'est de la chasse, c'est de la destruction, ça n'est pas l'élevage. On laisse se dévaster la mer. Où sont les responsables? Je me désolidarise des écologistes qui annoncent la fin du monde. Comprenez, ça ne m'intéresse pas.
Vous n'y croyez pas?
Si, j'y crois. Mais ça ne m'intéresse pas de l'annoncer. Ce que je voudrais, c'est faire aimer la nature telle qu'elle est pour qu'on la protège. Je ne cherche pas à effrayer les gens. Effrayer les gens, c'est toujours mauvais. Il faut au contraire les apprendre à aimer ce qu'ils veulent protéger. La défense de l'environnement sur le plan mondial, ça exige une instruction et une éducation du public. Parce que vous entendez, suivant les gens auxquels vous adressez, il y a toujours un responsable. Alors il y en a qui vous disent, c'est la technologie, c'est la science. Stupide, puisque la seule façon, au contraire, de lutter contre ces destructions, c'est des méthodes qui passent par la technologie et la science. Donc, ça ne veut rien dire. C'est l'usage qu'on en fait qui est mauvais. D'autres vous disent, oh, c'est le public est négligent, le public laisse traîner ses bouteilles de bière et ses papiers gras, etc., ou ses morceaux de plastique. Rigolade. Il n'y a qu'à lui expliquer, l'éduquer. C'est par manque d'éducation que le public, parfois, se conduit comme ça. Alors il ne reste plus finalement comme responsable que les gouvernements. C'est à leur niveau que les décisions peuvent être prises. Et au niveau des gouvernements, ils sont eux aussi prisonniers par une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas, je l'ai déjà dit, pénaliser leur industrie sans que les autres en fassent autant. Il y a donc, il faut passer par une solution qui, obligatoirement, aliène une partie de la souveraineté nationale. Même si elle est petite, il faut en aliéner un bout pour sauver le monde.
Oui. On y arrivera.
Il faut espérer.
Alors, je vous le rappelle, c'était en 1974. On aurait pu le passer aujourd'hui. Je crois qu'il n'y aurait pas eu énormément de différence, François Sarano.
Oui, d'abord, la terre est solide, elle est belle. Il faut la faire aimer si on a envie de la protéger. Ça, c'est une évidence. Ça n'aurait pas changé. Je ne suis pas certain que Cousteau aurait été aussi sûr de la nécessité de la technologie, et s'il se serait appuyé sur les dernières années sur cette idée que la technologie allait permettre d'arriver à un âge d'or. On a longtemps cru ça. Je pense qu'il serait plus proche des idées d'Illich, oui, sur, au contraire, une idée que la technologie, plus elle est complexe, plus elle a d'effets pervers, qui nécessite une technologie plus complexe pour les réparer. Et donc, elle est pour lui coûteuse, réservée à une frange de la population toujours plus étroite, et elle laisse de côté de plus en plus de monde. Et c'est un petit peu ce qu'on voit. Aujourd'hui, il y a 3,5 milliards de personnes qui sont à l'écart de l'humanité dans des bidonvilles. Force est de constater que notre technologie n'a pas résolu le problème et parfois, au contraire, le renforce.
Jacques Perrin.
L'ensemble de la population, on peut dire, de l'humanité, a plus ou moins vu les films de Cousteau. Non seulement le monde du silence, mais aussi tous les reportages qu'il a pu faire. Donc tout le monde a cette éducation, et on est depuis 20 ans, 20, 30 ans, à cette prise de conscience. Et la prise de conscience, elle s'adresse toujours aux citoyens. Et il le dit à la fin, il faudrait que les nations, que les gouvernances se resserrent, et finalement prennent des décisions et des directions. Et il y a des exemples, effectivement, Copenhague est sur un autre sujet. Mais malgré tout, les grands États qui se rassemblent parce qu'il y a urgence et qu'il faut agir ensemble. Sinon, il y a péril pour tous. Alors, Copenhague, ça n'a pas donné grand-chose, mais ça a donné quand même la volonté. Mais il a raison, il le dit il y a 25 ans. Qu'est-ce que font les gouvernances? Qu'est-ce que font ces réunions internationales? On le sait. Maintenant, n'importe quel citoyen de la planète, à part les gens du Sahel, à part les gens qui sont dans une profonde nécessité, on est tous conscients. Donc, qu'est-ce que l'on attend? On attend, l'opinion est faite. Alors, en général, comme dans toutes les relations politiques, c'est l'opinion qui contraint, qui oblige les politiques à agir. Donc, on peut croire que maintenant, avec des films, avec Cousteau, je crois que ce que l'on fait, on ajoute plus qu'un discours. On ajoute la valeur.
Non, mais c'est bien, vous avez dit, on ajoute et on agite. Et il faut le faire.
Oui, d'accord.
Parfait.
Et on donne la valeur. On donne la valeur affective. On donne la valeur du vivant.
Allez, un petit glaçon d'eau douce dans son whisky, c'est Gainsbourg.
Ça va pas?
J'ai pas faim.
Mais moi non plus, j'ai pas faim. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, Elisa. Elisa, cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux, fais-moi quelques anglaises. Et l'arrêt au milieu, on a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, 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 les autres on s'en fout. Elisa, 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 rien que toi, moi, nous, t'es 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, ah non. Vraiment, Elisa. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa.
CO2 mon amour sur France Inter, poursuite du voyage avec vous. On va partir en Bretagne, tenez, on va aller non loin d'Océanopolis, rejoindre un chercheur, un ancien enseignant passionné, parce qu'il ne passe pas une journée sans son microscope. Homme libre toujours, tu chériras la mer. Oui, oui, mais avec du plancton que nous allons mettre en vedette. Bonjour Pierre Molot.
Bonjour Denis, bonjour Jacques et bonjour François.
Alors, bonjour Pierre.
Vous êtes biologiste marin, vous êtes aujourd'hui consultant à Océanopolis et puis pendant des années, alors vous avez enseigné, vous êtes chercheur. Parlez-nous quand même de ce plancton qui existe quand même de plus de 3 milliards d'années, me semble-t-il.
Oui, Jean-Marie Pelt, dont on parlait tout à l'heure, il est là et il a survécu à tous les cataclysmes, hein, à tous les événements qui se sont passés sur notre planète. Il s'est diversifié et aujourd'hui, on a une diversité de plancton qui ne ressemble pas à celle qui a 3 milliards et demi d'années où c'était seulement que des cyanobactéries, des algues bleues. Aujourd'hui, on a une diversité de chlorophycées, de diatomées, d'algues microscopiques fantastiques puisqu'elles sont en fait tout le socle de la vie des océans et surtout, on doit leur rendre hommage parce qu'elles produisent plus de 50% de l'oxygène aujourd'hui, quoi.
Alors nous avons à la fois un plancton végétal et un plancton animal.
Voilà, ensuite, une fois que le plancton végétal s'est bien installé et a produit son oxygène, il y a à peu près 1 milliard d'années, du zooplancton est apparu, des petits crustacés qu'on appelle aujourd'hui les copépodes, et qui sont des fourrages très importants pour nourrir les sardines, les anchois, qui nourriront à leur tour des poissons un peu plus gros, et ensuite le thon. On a l'habitude de dire que pour faire 1 kilo de thon, par exemple, il faut 1 tonne de phytoplancton. Vous voyez un peu l'immensité, l'importance du phytoplancton.
Je suis, mettons, plancton avec une coquille calcaire. À quoi dois-je m'attendre demain? Parce qu'il y a quand même plus cette histoire de dérèglement climatique.
Oui, c'est ça. On parle du réchauffement de la planète, on parle du CO2, mais on oublie souvent de parler de l'acidification des océans. Et il faut savoir que le pH de la mer, bon, c'est un chiffre, hein, le potentiel d'hydrogène est de 8, et s'il passait de 8 à 7,7, c'est une catastrophe pour les océans, puisque les coquilles calcaires de nos petits crustacés, de nos petits planctons, seraient dissous très très rapidement, et c'est tout le plancton qui passerait. Voilà, il suffit de quelques dixièmes d'unité pour que ce pH soit une catastrophe demain, quoi.
Mais le mécanisme, c'est parce qu'on a plus donc, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, l'océan va en pomper davantage, et donc c'est ça qui va donner lieu à cette acidification.
Voilà, donc le CO2, lui son rôle, c'est de nourrir les plantes, mais aussi de jouer sur soit les milieux basiques ou acides, hein, de changer le comportement chimique des océans.
Pierre, parlons aussi des recherches quand même et de l'avenir. À quoi peut nous servir ce plancton? Sur quoi travaille-t-on actuellement?
Tout à l'heure, on entendait parler de médicaments, mais aujourd'hui, on se demande si le plancton, je parle du plancton végétal, hein, pourrait pas rentrer dans l'alimentation directement humaine. Hein. Aujourd'hui, on a besoin de vitamines, on a besoin de protéines, on a besoin d'oméga-3. Hein. Il faut savoir, par exemple, que sur le lac Tchad, de nombreuses populations, depuis des millénaires, se sont nourries avec une algue microscopique qu'on appelle la spiruline. Donc, on travaille sur une autre algue qui s'appelle Odontella aurita, un petit micro-organisme planctonique qui, lui, produit beaucoup d'oméga-3. Et il est possible aujourd'hui de faire des compléments alimentaires dans la nutrition. Et j'ai travaillé un peu en Inde, un peu en Afrique, où on met une cuillère à café de ces algues, de ce plancton, pour apporter tous les éléments pour éviter les carences alimentaires. Voilà.
Merci à vous Pierre Molot. Je vous renvoie donc à cet ouvrage que vous avez écrit avec Maël Thomas Bourgneuf, hein, qui s'appelle « L'enjeu plancton, l'écologie de l'invisible » aux éditions Charles-Léopold Mayer. Jacques Perrin, je vous en prie.
Non, est-ce que je peux adresser tout simplement un profond remerciement, une grande reconnaissance à Pierre Molot, parce que le début du film, quand on montre la diversité, c'est à différentes échelles. Et donc au début du film, au bout d'un microscope auquel nous a invité Pierre Molot, on peut distinguer un zooplancton. Voilà, c'est ça qui est. Et donc une goutte d'eau dans laquelle il y a déjà la vie qui bat. Et ça, ce début du film sur cette chose minuscule, c'est vraiment formidable. Je pense que c'est un des éléments qui donne une certaine appréciation du film. Parce qu'on n'est pas qu'avec les baleines, on n'est pas qu'avec les requins, on n'est pas avec toute la diversité des poissons que l'on connaît, mais on est dans l'infiniment petit. Et je dirais presque dans l'infiniment petit, on peut imaginer que presque, il y a non pas le cœur, mais la vie qui bat.
Je pourrais compléter en disant que c'est un ciel étoilé, miroir de l'origine de la vie dans les océans. Et ça, c'était l'idée de Jacques Perrin et de Jacques Clouzot.
C'est une belle chute, hein. C'est beau, il n'y a rien à rajouter, hein, cher Pierre. D'ailleurs, ce film, à travers la beauté et l'émotion, c'est là aussi la place de l'homme qui règne donc aujourd'hui à la place des grands requins, des baleines, des thons, des tortues. Donc, parler de l'avenir de l'océan, on est vraiment, une fois de plus, dans un changement de civilisation et ça veut dire trouver une manière de réduire notre influence sur elle. Les grands problèmes, c'est la surpêche d'un côté, la pollution de l'autre, qui se passe d'ailleurs très souvent dans les estuaires, parce que la pollution principale, ce n'est pas les hydrocarbures, mais avant tout, ce sont donc nos pollutions. François Sarano, quelle est un peu votre analyse ?
Eh ben, l'expérience de terrain que nous avons menée pendant 7 années avec les scientifiques et avec toute l'équipe d'Océan, 400 personnes, nous a amené en gros à 3 conclusions. Et je vais en donner les 3 exemples. La première, le drame. Vous parliez des estuaires ? Nous avions voulu filmer au tout début de la préparation le dauphin du Yangtze-Kiang. Eh bien, les chercheurs sont partis, plusieurs expéditions pour essayer de le repérer. Et ils ont constaté qu'il avait disparu pour toujours de notre planète. Et ceci s'est passé en 2007. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute des baleiniers du 20e siècle, ni du 19e. C'est notre responsabilité, nous l'avons laissé partir pour toujours. Ça, c'est le drame. Si nous ne faisons rien, le dauphin de Hector qui vit en Nouvelle-Zélande, le marsouin de la mer de Cortés, le vaquita, va subir le même sort. C'est le moment de réagir. C'est le moment de réagir. Sinon, ils vont disparaître. Et c'est le moment de réagir parce que ça vaut la peine. Nous avons réagi pour les baleines. Et c'est ça notre deuxième constat. Alors qu'il y a 40 ans, il était impossible de nager avec des baleines. Il n'y en avait plus. Elles avaient été exterminées par les chasseurs. Les rares qui avaient survécu se terraient dans des petites îles. On ne les voyait pas, elles fuyaient les bateaux. Aujourd'hui, on peut nager avec elles. Elles nous accueillent. Elles nous offrent des rencontres, elles n'ont plus peur de l'homme. Les populations grossissent à nouveau, même la baleine bleue retrouve des territoires qu'elle avait abandonnés. C'est une marque d'espoir formidable. Ça prouve que si on protège, ça marche. Ça vaut la peine de le faire. Et puis, nous sommes allés dans 54 sites exceptionnels. 54 sanctuaires. Certains endroits avaient été lourdement exploités, comme en Amérique du Sud. La vie y avait pratiquement disparu. 30 ans après, elle y est revenue. Riche, abondante, beaucoup d'espèces, des grands prédateurs âgés, adultes, qui signent indiscutablement le bon état de santé de l'écosystème. Cela veut dire là encore que lorsqu'on laisse à la nature des espaces de liberté, elle revient. Ça vaut donc, encore une fois, la peine que la société civile se mobilise, puisque les gouvernements ne le font pas toujours. Ça prouve que ça vaut la peine de lui dire à quel point cette mer est belle, parce que c'est comme ça qu'ensemble, et il n'y aura pas d'autre solution. Ce sera ensemble, avec les grandes industries, avec les gouvernants, tous ensemble, que nous pourrons avoir une relation nouvelle et plus riche pour nous avec notre océan.
Jacques Perrin, oui, par rapport donc.
Non, ce que je pourrais ajouter à ce que dit François, parce que malgré tout, dans les espèces qui sont menacées ou en voie de disparition, tu cites des espèces qui sont très loin là-bas. C'est en Amérique, c'est le dauphin du Yangtze-Kiang, mais il y a la Méditerranée qui est à 2 pas. Et moi, je me souviens, il y a 50 ans, j'ai un certain âge, je me baignais et au loin, je voyais des phoques moines de Méditerranée. Elles ont disparu de la Corse, elles ont disparu de la Sardaigne. On les trouve dans quelques îles maintenant de la Grèce, mais je crois qu'on les compte. Il y en a quelques dizaines. Ça a disparu. Et ça a disparu. La chose que l'on peut reprocher à nos sociétés, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence, c'est la grande culpabilité.
Et l'inaptitude à la limite.
Et l'inaptitude. Mais pratiquement, quand je parle en Corse, si je vais en Sardaigne, je dis, vous vous souvenez, il y avait des phoques moines. Ah bah oui, il n'y en a plus maintenant. C'est fini, on a le petit constat, ça fait même pas, suffisamment important pour paraître dans un journal.
Alors Jacques Perrin, sans faire de l'écologie de bazar qui va reposer, on va dire, sur l'unanimité ambiante qui dégouline de bons sentiments, quel est votre regard aujourd'hui donc sur la cause écologique ?
sur la cause écologique, je pense qu'il appartient à tous, c'est-à-dire à chacun. À chacun de comprendre que ce que l'on dit un peu dans notre film, là, c'est que la Terre, c'est pas notre jardin. Il y avait un titre merveilleux d'un des premiers cinéastes comme ça qui nous a emmené dans le genre cinématographique, c'est-à-dire film et non pas documentaire. C'était un film de Gérard Vienne, François Bell et Michel Fano qui s'appelait « Le territoire des autres ». Territoire des autres, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé de titre comme ça plus magnifique que celui-là. Il y a des territoires qui sont aux autres. Mais on a tout annexé. On a une victoire complète à l'échelon de la planète. On a tout gagné. Tout nous est subordonné. Mais c'est, dans le même temps, la victoire, c'est aussi c'est un potentiel désastre.
Qu'est-ce que l'on va extraire ? La scène avec les iguanes, celle avec les morses, celle avec les fous du Cap, que sais-je ? Quelle est celle que vous avez envie de nous offrir ?
Moi, c'est celle que j'ai envie de vous offrir. Oui, bien sûr, il y a les fous du Cap qui viennent, qui tombent dans la mer, comme ça, là où il y a toute la chaîne alimentaire.
Ils viennent dans la boîte de sardines.
Oui, absolument. Il y a les ripailles primitives. C'est pas seulement ça. Nous sommes comme il faut. On a un petit rôle, là, c'est une arme, le cinéma, c'est fait pour convaincre, c'est fait pour, effectivement, vous dites une cause, pour combattre. Moi, c'est la course, les hordes sauvages, encore une fois, de ces thons, de ces dauphins qui déchirent la surface des océans, qui vont sous la mer et qui vont à une allure gigantesque. Et c'est là, qu'est-ce qui est beau ? C'est l'expression de l'hydrodynamisme, l'expression de la vie. C'est éblouissant, éblouissant. On ne connaissait pas, on ne savait pas. Donc, encore une fois, ce que dit François, c'est juste. Qu'est-ce que c'est qu'un animal ? C'est son milieu, c'est les interrelations qui peuvent exister. On a essayé de faire ça. On a eu des 8 opérateurs qui, pendant les 4 ans de tournage, ont été dans ces niches, ont été dans ces sanctuaires et ont essayé de découvrir ces formidables relations. C'est la diversité, on n'imagine pas ce que c'est que la diversité. Ce sont des cellules de vie, des mondes, des univers complètement différents parce que les correspondances d'un animal avec le milieu sont complètement différentes. Et grosso modo, on a l'impression que la mer est très belle et toute bleue et que si on soulevait la voile de la mer, ce serait uniforme. Ça ne l'est certainement pas.
Le peuple migrateur, c'était le combat pour la vie. Océan, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui ressort ?
Effectivement, le peuple migrateur, on disait que grosso modo, les oiseaux ne volent pas pour le plaisir, ils volent par nécessité, pour survivre. Et donc, ils font du pôle Nord, pour certains, au pôle Sud. Et comme ça, c'est sans arrêt des déplacements qui sont nécessaires. En ce qui concerne la mer, pourquoi on a voulu le faire ? On a voulu le faire simplement, je pense, en grande partie pour découvrir. Vous disiez tout à l'heure, Cousteau avait une remarque qui était très bien, pour défendre, il faut connaître, il faut protéger. Je crois qu'on s'inscrit complètement dans ce sillage, il faut découvrir. Donc on ouvre, encore une fois, la représentation que l'on donne de la mer, elle est tellement infime. Mais elle est là suffisante pour que on a pu remarquer qu'enfants, on a pu remarquer que les adultes ont tous la même âme d'enfant. Et je sais que on a fait quelques avant-premières, et quand même c'est formidable, des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, qui ne connaissent pas la mer, qui la connaissent par récit, mais qui ne la connaissent pas comme ressenti. Qu'est-ce que c'est que la mer ? Se baigner dans la mer, s'immerger dans la mer. Et donc, ils ont regardé le film, il y a des scènes qui les ont choqués. Non pas que les scènes sont violentes. Ils ont été choqués par ce que font les hommes sur les animaux de la mer. Ça les a choqués. Et à la fin,
couper les ailerons de requin, entre autres.
Couper les ailerons de requin, etc. Et à la fin, comme il y a très peu de commentaires, c'est 7 minutes et demie dans le film, on leur a demandé, est-ce que, enfants, vous avez des questions à poser ? Ils étaient 400, il y a 400 bras qui sont levés. Oui. Parce que ça les fascine. Ça les fascine, ils ne savent pas que ça peut les fasciner. Et il y a des tas de gens qui sont indifférents et qui... Mais comment faire pour prendre, je ne sais pas, nos concitoyens, les prendre par la main, les mettre la tête sous l'eau, non pas pour les noyer, mais leur faire comprendre à quel point c'est beau, à quel point on a besoin de cette diversité. Je vais reciter la phrase de Francis Roux, mais que je trouve exemplaire, qui est « Rien ne serait plus inhumain qu'un monde où il n'y aurait que des êtres humains ».
Merci à vous, Jacques Perrin. Et donc, fin de cette émission en remerciant Michel Thomas et Benjamin Lagatine à la technique aujourd'hui, Marion Lelay, notre assistante, Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture, et Xavier Pessugia qui a réalisé cette émission. Je n'oublierai pas Muriel Pérez qui a choisi les disques et Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour avec aussi un site tout à fait intéressant, l'actualité de l'environnement en temps réel. La semaine prochaine, on aime la diversité, vous le savez, donc on va changer de registre complètement. On on se retrouvera avec Jean-Marie Pelt. Et puis reportage dans une petite commune du Luxembourg qui s'appelle Beckrich. 2500 habitants, ils ont décidé d'arriver à l'autonomie énergétique. Donc là, c'est un maire tout à fait intéressant. Donc reportage, ce sera un petit peu dans la neige avec lui. Et on devrait retrouver aussi Nathalie Fontrelle pour l'actualité de l'environnement.